Vous écoutez France Culture.
Il est midi et demi sur France Culture. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après 2 ans de retard et 3 reports successifs, mais aussi après une campagne rattrapée par la violence, les élections générales ont enfin eu lieu hier en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Kabila. Quand l'opposition se dit convaincue qu'un de ses 2 candidats sortira vainqueur du scrutin, la coalition au pouvoir, elle, assure que son candidat l'a d'ores et déjà remporté. Près de 8 ans après une guerre dévastatrice aux répercussions mondiales, Bachar el-Assad serait-il sur le chemin d'un retour en grâce, honni jusqu'à présent par une grande partie de la communauté internationale. Le boucher de Damas multiplie désormais les efforts pour réintégrer son pays dans l'arène diplomatique et la tendance pourrait bien se renforcer dans les semaines à venir. Au Bangladesh, le parti de la première ministre a remporté hier les élections législatives avec une majorité écrasante, c'est du moins ce qu'a confirmé ce matin la commission électorale. Des résultats rejetés en revanche par l'opposition qui considère que le scrutin est entaché de fraude. Les ministres de l'Intérieur britanniques et français se sont mis d'accord hier pour accroître leur collaboration face aux tentatives de traversée de la Manche par des migrants à bord de petites embarcations, tentatives qui se seraient multipliées ces dernières semaines. L'affaire Benalla, qui on s'en souvient avait empoisonné l'été de l'Elysée, refait surface. L'ex-chargé de mission a affirmé hier au site Mediapart avoir continué à échanger régulièrement avec le président Emmanuel Macron après son licenciement, contredisant ainsi des affirmations de la présidence selon lesquelles elle n'entretenait plus aucun contact avec l'ancien chargé de mission. Et c'est donc dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va lui tenter de reprendre le cap de son quinquennat en adressant ce soir ses vœux aux Français, au moment même où par ailleurs des gilets jaunes lui rappelleront leur force en se retrouvant aux Champs-Élysées sous haute sécurité pour les festivités du Nouvel An. Enfin, invité du journal dans 20 minutes, Kamel Amriou, représentant des gilets jaunes. Parce qu'ils auront rêvé ce moment plus de 2 années durant, mais aussi parce que certains ont dû se battre et parfois même donner jusqu'à leur vie pour qu'enfin une première transmission pacifique du pouvoir soit rendue possible. Les élections générales organisées hier en République démocratique du Congo s'annonçaient aussi historiques que chaotiques. Alors premier constat, l'engouement des 40 millions d'électeurs du plus grand pays d'Afrique subsaharienne semble s'être vérifié toute la journée, même si certains bureaux de vote n'ont pu ouvrir à temps et que d'autres ont subi les caprices de la fameuse machine à voter, objet de toutes les polémiques. Nombreux sont ceux, notamment parmi les jeunes, à s'être déplacés pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, contraint de ne pas briguer un 3e mandat interdit par la Constitution. Reste à présent à savoir si dans un des pays les plus instables du continent, l'enthousiasme des électeurs et leur soif d'autres horizons suffira à ouvrir la page de l'après-Kabila. Dès hier soir, leur critique du dépouillement a donc commencé. La commission électorale a prévenu qu'elle se donnait jusqu'au 6 janvier pour la proclamation des résultats provisoires. Et même si un sondage prédisait cette semaine la victoire du candidat d'opposition, hier, le dauphin de Joseph Kabila et ex-ministre de l'Intérieur s'est lui d'ores et déjà déclaré vainqueur. Ambiance ce matin dans les rues de Kinshasa avec la correspondance d'Anthony Fouchard.
Kinshasa s'est réveillé sans trop y croire. 2 ans et 1 semaine d'attente et enfin un scrutin. Chaotique, certes, mais un scrutin quand même. Ce matin, les bus circulent, les taxis aussi et les vendeurs sont de retour dans les rues. C'est un climat assez étrange entre attente et excitation, inquiétude aussi, à mesure que les premiers résultats sont transmis et compilés par les différents observateurs. Le président Kabila l'a redit hier, personne d'autre hormis la commission électorale n'a la légitimité de publier des résultats, comme pour se prémunir d'éventuelles annonces que pourraient faire les observateurs, notamment les catholiques de la conférence épiscopale. Ils étaient 40 000 déployés dans le pays et avaient prévenu « nous serons les arbitres de ce scrutin présidentiel ». De nombreux cas de fraude ont été relevés, des intimidations, des violences, de la corruption. Certains bureaux ont ouvert bien après l'heure légale et sont donc restés ouverts une bonne partie de la nuit. Il faut donc patienter encore un peu avant les premières tendances.
Correspondance à Kinshasa, donc signé Anthony Fouchard. Au Soudan, si la violence de ces derniers jours est inédite, l'ampleur de la protestation, laquelle a désormais dépassé les limites de la capitale, semble elle aussi sans commune mesure. Hier, tout en promettant une fois de plus d'entreprendre de vraies réformes pour calmer le mécontentement populaire, le président Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, a appelé la police à s'abstenir de recourir à une force excessive contre les manifestants. C'était le 16 décembre dernier, le président soudanais Omar El-Béchir, toujours lui, rencontrait un certain Bachar el-Assad à Damas, devenant ainsi le premier chef d'État arabe à se rendre en Syrie depuis 2011. Et ce week-end, c'était au tour de hauts responsables irakiens de la sécurité, cette fois-ci de rencontrer le président syrien. Et si l'on ajoute encore à cela la réouverture en grande pompe ce mois-ci de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Damas, mais aussi l'appel des Kurdes au régime syrien pour, je cite, les protéger de l'invasion turque après le retrait annoncé des troupes américaines, eh bien une question se pose. L'année qui s'achève marquerait-elle un retour en grâce diplomatique pour Bachar el-Assad, pourtant coupable des pires crimes commis contre sa population? Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Seule certitude, Christian, c'est un vrai tournant qui est en train de se cristalliser en Syrie.
Oui, Thomas, 2018 se termine par une embellie diplomatique pour Bachar el-Assad. D'abord parce que les lignes de front viennent d'être bouleversées par l'annonce du retrait des soldats américains du nord de la Syrie. Une divine surprise pour Damas. La Maison-Blanche acte en fait le protectorat russe sur le pays. Il revient à Moscou, l'allié du pouvoir syrien, de trouver une solution à la crise. Les Américains jettent l'éponge. La France, qui conserve encore sur place des forces spéciales d'appui aux Kurdes, pourrait suivre dans la foulée. Et puis, vous l'avez dit, l'autre bonne nouvelle pour Bachar el-Assad, c'est le retour des pays arabes. On se souvient que la Syrie avait été mise au banc de la Ligue arabe en novembre 2011. La réintégration de Damas dans l'organisation panarabe est aujourd'hui clairement évoquée. Depuis plusieurs mois, le régime de Bachar el-Assad a rouvert des canaux diplomatiques et sécuritaires avec l'Égypte et la Jordanie. La réouverture de l'ambassade des Émirats Arabes Unis marque symboliquement un tournant parce que d'autres pays du Golfe devraient suivre, notamment Bahreïn. En revenant à Damas, ces pays du Golfe veulent surtout contrer l'influence grandissante de l'Iran au Levant. Réalistes, ils font le constat du fiasco de la diplomatie arabe. Aujourd'hui, la Turquie et l'Iran ont les cartes en main en Syrie et donc ils ne veulent plus laisser le champ libre à ces deux puissances rivales non arabes. Bref, avec l'appui des Russes, maîtres du jeu diplomatique et militaire, les pays du Golfe sont prêts à sortir leur carnet de chèques pour financer une partie de la reconstruction de la Syrie, avec pour objectif prioritaire marginaliser les ambitions de Téhéran.
Merci Christian Chéneau. La récente décision du président Donald Trump de réduire de moitié la présence des soldats américains en Afghanistan, et ce avant même que les pourparlers de paix aient abouti, a-t-elle réduit à néant les espoirs de nombreux Afghans après 17 années de guerre? Toujours est-il que le pays s'apprête à clore une année noire marquée par des violences records et craint surtout que 2019 ne soit pire encore, avec notamment la perspective d'une élection présidentielle à haut risque reportée hier au 20 juillet. L'information a été révélée ce week-end par le quotidien américain New York Times. Dans la guerre qui, depuis 2015, oppose l'Arabie Saoudite aux rebelles houssis du Yémen, les Saoudiens éviteraient autant que possible de faire combattre leurs propres soldats. Et comment ? En engageant des enfants soudanais pour combattre à leur place en échange de salaires avantageux, selon le quotidien américain. Riyad aurait ainsi embauché quelques 14 000 miliciens, pour la plupart originaires du Darfour et âgés de 14 à 17 ans. La Cour de cassation du Bahreïn a rejeté ce matin le recours déposé par l'un des militants des droits de l'homme les plus connus du monde arabe, l'opposant Nabil Rajab, condamné à 5 ans de prison pour avoir critiqué le gouvernement dans une série de tweets dans lesquels il dénonçait les raids aériens au Yémen de la coalition sous commandement saoudien, mais à laquelle appartient également Bahreïn. Il accusait les autorités pénitentiaire de son pays de pratiquer par ailleurs la torture des prisonniers politiques. Au Bangladesh, pour la première fois depuis plus de 10 ans, l'opposition qui avait boycotté le précédent scrutin semblait cette fois-ci relativement unie. En vain, puisqu'à en croire les résultats donnés à la télévision, c'est la coalition au pouvoir qui aurait largement remporté les élections législatives organisées hier. La première ministre, Sheikh Hasina, fille du premier président du pays, décrocherait ainsi son 3e mandat consécutif depuis 2008 et le 4e depuis celui de 96, un record national. Il faut dire que Sheikh Hasina, que ses détracteurs décrivent comme une autocrate en germe, reste en effet assez largement populaire et en particulier parce qu'elle aura réussi à débarrasser son pays de son image de nation miséreuse et accablée de calamités. Sauf que les résultats publiés ce matin par la commission électorale ont aussitôt été rejetés par l'opposition, laquelle considère que le scrutin a été entaché de fraude. Les précisions de notre correspondant dans la région, Antoine-Paul Guinard.
Un simulacre d'élection, c'est en ces termes que le leader de la grande coalition d'opposition, l'avocat Kamal Hossein, a qualifié le scrutin de dimanche. Il a exigé le jour même l'organisation de nouvelles élections sous la tutelle, je cite, d'un gouvernement neutre. La Ligue Awami, le parti au pouvoir à Dhaka, a en effet raflé 95% des sièges au Parlement, remportant facilement une majorité absolue. Son rival historique du BNP, dont la présidente et ex-première ministre Khaled Azia est en prison pour corruption, s'est présenté cette fois au sein de la grande coalition de Kamal Hossein. Il a obtenu moins d'une dizaine de sièges. Le BNP avait dénoncé la semaine dernière l'arrestation arbitraire de plusieurs milliers de ses sympathisants pendant la campagne électorale qui a débuté le 8 novembre. Le parti affirme que les hommes de la Ligue Awami contrôlaient dimanche l'accès à de nombreux bureaux de vote, n'hésitant pas à avoir recours à la violence. Accusé de dérive autoritaire envers ses opposants politiques et de museler la liberté d'expression depuis plusieurs années, Sheikh Hasina a axé tout son programme sur le développement économique. La première ministre a annoncé qu'elle comptait encore renforcer le secteur du textile, principal moteur de la croissance de près de 8% dont jouit le Bangladesh. Mais le taux de chômage chez les personnes entre 20 et 30 ans reste un problème majeur dans le pays qu'elle devra résoudre lors de ce nouveau mandat.
Carlos Ghosn reste en prison. Ce matin, le tribunal de district de Tokyo a annoncé qu'il prolongeait de 10 jours la détention du PDG de l'alliance Renault-Nissan, placé en état d'arrestation sur la base de nouvelles accusations. Carlos Ghosn aurait fait passer dans les comptes du constructeur automobile japonais des pertes de quelque 14 millions d'euros sur des investissements personnel. À moins de 100 jours de l'échéance et à 2 semaines d'un vote crucial du Parlement, le gouvernement britannique laisse entendre qu'il pourrait faire marche arrière sur le Brexit. C'est du moins ce qu'a déclaré hier dans les colonnes du Sunday Times le ministre du Commerce, Liam Fox, pourtant fervent partisan de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Si le Parlement refusait de ratifier l'accord négocié avec Bruxelles, alors l'exécutif pourrait vouloir, selon lui, couler définitivement le projet. Même si le nombre de passages de migrants reste limité, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en mer Méditerranée. Ils seraient de plus en plus nombreux aujourd'hui à tenter leur chance en traversant la Manche sur des bateaux de fortune. Depuis 2 mois, plus de 200 migrants, majoritairement iraniens, ont essayé de rejoindre le Royaume-Uni. De quoi pousser le ministre britannique de l'Intérieur à rentrer précipitamment hier de ses vacances pour s'entretenir au téléphone avec son homologue français et manifestement, les deux hommes se sont rapidement entendus pour renforcer la surveillance des plages et de la mer. Les précisions à Londres de Marina Daras.
Il n'y a pas de solution facile, a déclaré Sajid Javid, le ministre de l'Intérieur britannique. Dans un entretien avec le Daily Telegraph, il a tenu à souligner que les raisons de cette forte augmentation du nombre de traversées clandestines sont compliquées et dans bien des cas indépendantes de la volonté des gouvernements français et anglais. Après s'être entretenu avec son homologue français, Sajid Javid a annoncé un plan d'action commun qui devrait être mis en place dans les prochaines semaines afin d'accroître les patrouilles et améliorer la surveillance des deux côtés de la Manche. L'objectif étant d'interpeller les gangs de trafiquants organisés et de sensibiliser les migrants aux dangers qu'une traversée de la Manche représente. Sajid Javid doit présider aujourd'hui une réunion avec la police aux frontières britanniques pour discuter de ces mesures et tenter d'enrayer la crise le plus vite possible. Certains députés s'indignent du manque d'action et réclament l'intervention de la Royal Navy avant que la crise ne dégénère en catastrophe. Le ministre a tenu à rappeler que la traversée de la Manche sur ces embarcations de fortune est rendue particulièrement dangereuse par la densité du trafic maritime, les forts courants et la faible température de l'eau et que les migrants mettent leur vie en grave danger. Il dit reconnaître les obligations de son gouvernement envers les véritables demandeurs d'asile, mais promet que le gouvernement britannique ne permettra pas à des criminels de profiter de la misère des personnes les plus vulnérables de notre société.
En attendant d'être reçu la semaine prochaine par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, les agents de la police technique et scientifique, soit quelques 2500 personnes, sont appelés à faire grève la nuit prochaine pour dénoncer le manque d'effectifs et réclamer une amélioration de leur statut. En particulier, ils souhaitent obtenir les mêmes conditions que les policiers armés, lesquels viennent eux d'obtenir une hausse de leur salaire. Déjà au cœur d'une nouvelle controverse politico-judiciaire pour n'avoir pas restitué ses 2 passeports diplomatiques après sa mise à pied. Voilà qu'Alexandre Benalla contre-attaque dans un entretien à Mediapart. L'ex-responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron affirme avoir échangé très régulièrement avec le chef de l'État depuis sa mise à l'écart l'été dernier. Et ce, alors que la présidence de la République avait pourtant assuré tout le contraire en affirmant ne plus entretenir aucun contact avec lui. Steven Gouaillet, bonjour.
Bonjour Thomas.
À l'évidence, Alexandre Benalla a décidé de mettre la pression sur l'Élysée. En clair, ces nouvelles révélations compromettantes résonnent comme une espèce d'avertissement sur le mode « si vous me lâchez, je vais tout balancer ».
En tout cas, ça y ressemble. Dans cette interview qu'on pourrait qualifier d'assez frontale, Alexandre Benalla le confirme. Il est bien resté en contact avec l'Élysée et même avec le président de la République plusieurs fois via la messagerie Telegram. Ça, ils ne pourront jamais le nier. Ça va être très dur de le démentir parce que tous ces échanges échanges sont sur mon téléphone portable, explique-t-il. Traduction, le lien ne s'est pas coupé et j'ai les preuves dans la poche, alors que l'Élysée avait expliqué ne plus avoir de contact avec lui. Des échanges, d'après l'intéressé, autour de questions de sécurité, de la situation des gilets jaunes, d'un peu de tout et d'un peu de rien, juste pour recevoir l'avis de celui qui était pourtant décrit comme persona non grata du côté du château. Messages qui se sont arrêtés au moment de la révélation sur ses voyages en possession des passeports diplomatiques. Et là aussi, l'ancien chargé de mission met à mal la version des autorités. Ces deux passeports, il explique les avoir laissés dans son bureau après son licenciement cet été, avant qu'on ne les lui restitue au mois d'octobre en pleine rue avec quelques-unes de ses affaires. Le salarié chargé de lui remettre ce carton lui aurait même glissé au sujet des deux passeports, selon ses termes, tu ne fais pas de bêtises avec. Version formellement démentie il y a quelques minutes par l'Élysée, selon nos confrères de France Info. Alexandre Benalla avait prévenu qu'il livrerait sa version des faits. Il s'exécute avec fracas en égratignant même l'entourage du président Macron, des technocrates qui appartiennent à une famille pire que la mafia où tout le monde se tient, où tout le monde doit sa carrière à l'autre. Fin de citation. S'il n'avait plus rien à perdre, il ne l'aurait sans doute pas dit autrement.
Merci Steven Gouaillet. Alors cette affaire Benalla vient nous rappeler à quel point décidément rien ne se sera passé comme prévu pour Emmanuel Macron lors de cette année 2018 horribilis. Et les gilets jaunes ne manqueront pas de lui rappeler encore avec force ce soir en se retrouvant aux Champs-Élysées au moment même où le chef de l'État adressera ses vœux aux Français à la télévision. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
En un an, le chef de l'État a vu son capital de popularité s'effondrer. Alors difficile de dire si l'exercice de ce soir pourra influencer les prochains mois. L'enjeu sera évidemment de convaincre, il lui faudra pour cela trouver les mots, les bons, et surtout faire la preuve qu'il est capable de davantage d'écoute et de bienveillance.
Oui, et cette affaire Benalla qui refait surface, dont vous venez de parler Thomas, eh bien elle symbolise à elle seule ce quinquennat qui semble grippé depuis l'été dernier, car au-delà des péripéties surréalistes de l'ex-chargé de mission de l'Élysée, il y a eu les départs tonitruants des ministres Nicolas Hulot et Gérard Collomb, et puis cette explosion sociale inédite des gilets jaunes. Rien n'est réglé, on le sait, preuve en est, vous venez de le dire, les manifestations organisées ce soir partout en France, sur les Champs-Élysées ou encore à Bordeaux, sur le pont d'Aquitaine. Le chef de l'État a certes amorcé un changement de cap avant les vacances de Noël en annonçant plusieurs mesures économiques d'apaisement. On verra ce soir comment il donne suite et s'il prend position, par exemple, sur le référendum d'initiative citoyenne réclamé par une partie des Gilets jaunes et de l'opposition, une idée sur laquelle il ne s'est pas encore prononcé. Le chef de l'État, qui devrait également marquer les limites du grand débat national sur lequel il mise pour recréer du lien avec les Français, le tout en réaffirmant ses priorités. Emmanuel Macron, qui a été élu sur un programme de réforme qui est loin d'être terminé, avec le chantier des retraites et de la fonction publique prévu en 2019. Le passage est étroit et pour être bien pris ce passage, le président doit aussi bien choisir le ton et les mots, alors qu'une partie des Français ont toujours la dent dure contre les phrases cassantes qui ont jalonné ces derniers mois, du pognon de dingue jusqu'au gaulois réfractaire. Le chef de l'État est en train de peaufiner ses vœux à la nation. Actuellement, il est rentré à l'Élysée après 4 jours de pause au fort de Brégançon. Sont dans le Var, un fort que les Gilets jaunes ont tenté d'investir en vain à 2 reprises la semaine dernière.
Merci Anne Fauquemberg. Invitée de ce journal pour parler avec nous de ses vœux présidentiels, Kamel Amriou, représentant des Gilets jaunes. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Depuis votre toute première revendication contre la hausse prévue des prix du carburant, il semble aujourd'hui que plus rien, plus aucune mesure, plus aucun geste ne permette d'apaiser votre colère, à l'exception peut-être de la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce le cas, tout d'abord? Et si oui, pensez-vous sincèrement que la démission du chef de l'État soit sinon efficace, possible?
Écoutez, ça c'est... Déjà, j'aimerais, si vous me le permettez, avoir une pensée particulière pour toutes ces personnes qui sont disparues, qui sont décédées durant ces nombreuses semaines de mobilisation. Je crois que c'était nécessaire qu'on puisse le dire sur votre antenne. Concernant cette démission dont vous me parlez, bon, vous avez au sein des Gilets jaunes. Alors j'aimerais rappeler que moi je ne suis pas ici pour représenter l'ensemble des mouvements aux Gilets jaunes. Ils existent partout dans les régions France. Je préside l'association Mouvement Citoyen des Gilets jaunes et je m'en tiens qu'à cette responsabilité. Mais nous sommes en lien avec, effectivement, partout en France, avec des groupes de gilets jaunes. Il est très important de signifier la chose suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ces revendications, il y a de nombreuses personnes qui demandent la démission. En ce qui nous concerne, ce n'est pas tout de suite la priorité. Il y a bien évidemment le dialogue. qui doit s'installer sur un certain nombre de revendications, sur l'ISF, sur l'augmentation du SMIG, sur cette taxe qu'on a vue disparaître après des manigances autour de termes choisis de moratoire. Vous voyez, c'est un peu une manière, lorsqu'on a une lecture approfondie de tout ça, une position qui consisterait à prendre les Français pour les idiots utiles de la République. Et ça, c'est dommageable. Et le climat de confiance qu'on aurait souhaité voir être présent, eh bien, est diffus. Il y a une opacité, il y a des revirements, il y a même une médiocrité. Je dis le mot est fort, mais il y a même une médiocrité au travers de l'amateurisme de la manière dont est géré notre pays. Et on le voit bien. Ça me renvoie à vous dire que en 2017, des vœux ont été formulés par le président de la République. Et je ne sais pas si vous en avez souvenir, une cascade de promesses, etc., qui n'ont pas été tenues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, considérer que ce mouvement de citoyens qui est soutenu par une grande majorité des Français aujourd'hui, eh bien, est plutôt méfiant à l'égard de ce gouvernement. Et c'est pour ça que, même si l'on doit continuer à dialoguer, eh bien, nous sommes dans une position de très grande méfiance.
Vous évoquiez à l'instant les premiers vœux d'Emmanuel Macron l'an dernier. Qu'est-ce que vous attendez ce soir du discours du chef de l'État ?
Écoutez, très sincèrement, pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est s'il venait à faire une sortie...
Pas grand-chose, parce que vous n'y croyez pas ou parce que vous n'avez rien à réclamer?
Vous savez, non, on a beaucoup de choses à réclamer, et vous le savez bien. Mais pas grand-chose, parce que l'histoire nous l'indique au travers de ces prises d'opposition. Eh bien, le compte n'y est pas, les choses qui ont été dites à une époque ne sont pas tenues. Non, je crois qu'il faut être dans la rue, partout autour des ronds-points, dans les rues, dans les places. C'est pour ça que nous, ce soir, on convie l'ensemble de la population, mais avec, dans un caractère festif, pacifique, à être sur le rond-point des Champs-Élysées. C'est très important. C'est un petit clin d'œil, effectivement, sur ce rond-point des Champs-Élysées, à tous ceux qui seront encore sur ces ronds-points partout dans les villes et les villages de notre pays.
Une question, Kamel Amriaud, à Anne Fauquemberg.
Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen, fondateur des Patriotes, qui veut déposer la marque Gilet jaune. Ça vous inspire quoi? La récupération politique, elle est inévitable?
Écoutez, c'est une lecture. Nous, on a une lecture de tout ça. Ça nous fait un peu sourire. Vous savez qu'il y a 25 ou une trentaine de personnes qui ont déposé Gilet jaune. Hein. Il faut aller sur le site de l'INPI et vous vous rendez compte. Il y a des choses très fantaisistes. Mais pourquoi pas? Finalement, ça suscite un intérêt. Monsieur Philippot, dans sa posture. Je veux dire, il s'est découvert, c'est très bien, voilà. C'est bien, vous savez, tout ça finalement aura permis à ce que les uns et les autres se révèlent. On a une plus grande connaissance, une meilleure appréciation des uns et des autres, hommes, femmes, politiques, et voilà. Donc, je trouve ça, pour notre société, d'en tirer un enseignement, c'est qu'aujourd'hui, la France est en résistance. Et j'aime à rappeler que, en marchant dans les pas de nos aînés, vous savez, ces résistants qui ont eu ce courage, eh bien qu'aujourd'hui, qu'on puisse marcher dans ces pas-là, pour se souvenir que d'un côté, vous avez ceux qui se sont engagés pour combattre la paupérisation d'une société, la misère sociale, également les égoïsmes. C'est pour ça qu'on appelle chacun d'entre nous, chaque citoyen, qu'il soit chef d'entreprise ou simple salarié, à rejoindre cette résistance citoyenne. C'est très important de le dire, parce qu'à un moment, on fera ce compte. Finalement s'opposeront deux pôles, ceux qui auront rejoint la résistance de la première heure et ceux qui seront restés dans une certaine forme de collaboration à cette misère, à cette paupérisation et à ces égoïsmes qui perdurent malheureusement dans notre pays. Et ça, c'est très important de le signaler.
Alors, vous parlez de résistance, c'est intéressant, mais est-ce que vous parlez aussi de traduction politique? Est-ce qu'il faut une liste gilets jaunes aux européennes, par exemple?
Oui, je crois qu'il faut avant tout se réunir. J'ai bien entendu ici et là des gens qui souhaitaient monter des listes, etc., etc. Mais cette division, elle n'est pas souhaitable pour le mouvement. C'est pour ça que nous, au sein de notre petite association, on envisage d'inviter l'ensemble de ceux qui se reconnaissent dans les gilets jaunes très prochainement, dans le courant du mois de janvier, pour un grand débat autour de ça à la Sorbonne. C'est également un petit clin d'œil à la Sorbonne, puisque vous savez qu'en 68, la rencontre des salariés, des travailleurs et des étudiants a porté vraiment très très fort les revendications. Je profite d'être sur votre antenne pour lancer ce message et cette invitation à tous ceux qui voudront qu'on sorte grandi de cette séquence très importante pour notre pays.
C'est entendu. Merci Kamel Amriou, président, je le rappelle, de l'association Mouvement Citoyen des Gilets Jaunes, d'avoir été en direct avec nous. Et puis j'en profite également pour vous préciser qu'une émission spéciale Vœux présidentiels aura lieu dès 20h sur France Culture, animée par Stanislas Vazak, avec vous Anne Fauquemberg pour le décryptage, ainsi qu'Alexandre Malafaï, écrivain, chroniqueur sur notre chaîne lors de la dernière élection présidentielle et fondateur de Sinopia, un think tank indépendant issu de la société civile. On termine rapidement avec un mot de météo. Ciel couvert sur la moitié nord, du soleil au sud. Les températures, elles seront généralement comprises entre 7 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Florence Turme pour le prochain journal de la rédaction.